Shalom, shalom.
Je propose que voilà, chacun appuie sur le bouton mute. Et bonsoir à tous. Je propose que chacun appuie sur le bouton mute, se mettre en silence. Se mettre en silence, c'est...
On est bon? On y va? Yofi. Alors, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on est parti pour une petite étude, donc, ah, hop là, qu'est-ce qui se passe? Oui, mon ami? Oui, allô?
Pardon?
Allô, allô?
Ouais, tu m'entends?
Ouais.
Ouais, t'es en train de te connecter?
C'est, je suis déjà connecté.
Ah, ok, ok. Je te voyais pas, en fait. Donc, ok, alors, attends, je retourne sur le call.
Ok. On est bon? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas, Houston?
J'ai dit on t'entend bien, mais il y a une télé qui est allumée.
C'est pas la mienne.
Ouais, je sais. Si tout le monde pouvait se mettre en silence, il y a un petit bouton en fait en bas à gauche. Il faut appuyer sur le microphone et à ce moment-là, on est en silence.
On est bon? Yala.
Je pense qu'on peut démarrer. Allons-y.
Alors, c'est parti. Erev Tov les Koulam. On est reparti pour une étude en préparation de Chag à Pessah. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de la Haggadah en trois temps. De la Haggadah du passé, de la Haggadah du présent et de la Haggadah du futur. Avar, Ove, Veillet. Et en fait, on avait expliqué que la Haggadah, elle est dynamique. Elle est dynamique et elle est tellement dynamique que le fait même de la Haggadah, le fait même de la tradition de cette soirée-là, ne peut pas être la même d'année en année. Alors, je m'explique. Je ne sais pas comment vous faites votre soirée du Seder, chacun chez soi. Cette année, encore plus chacun chez soi que d'habitude. Je ne sais pas si on sera toujours en confinement ou pas en confinement pour la soirée du Seder. Mais... il est peut-être possible qu'il y ait certaines personnes qui se soient installées dans une certaine routine dans leur CDR. Alors, pour les personnes qui sont seules et qui font le CDR seules, d'une année sur l'autre, finalement, je peux comprendre qu'il y ait une routine qui se soit installée. Puisque tu es le même, plus ou moins, entre cette année et l'année suivante. Même si c'est pas vrai, parce que tu as évidemment évolué en un an. Mais bon, au niveau schizophrénique... ça va, tout ira bien. Mais dans le cas où tu es avec une famille, des enfants, ou que tu sois toi-même un grand-père qui est avec ses enfants et ses petits-enfants, eh bien, ton CDR cette année ne peut pas ressembler à celui de l'année dernière. Pourquoi? Eh bien, parce que cette année, tu as autour de la table un enfant de 3 ans. L'année dernière, il avait 2 ans, cet enfant. Ce n'est absolument pas le même. À 2 ans, on comprend pas grand-chose. À 3 ans, c'est déjà un monde. Et attends, si maintenant cet enfant, il a 5 ans, je t'en parle même pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là que le propre de la soirée du Seder, si on a dit qu'elle devait être dynamique, c'est parce que la mitzvah principale de la soirée, dans la mesure où pour le moment, et je parle bien de pour le moment, nous n'avons pas la mitzvah du Korban Pessah, alors la mitzvah principale de la soirée devient Mitzvat Sipur Yetziat Mitzrayim. La Sipur. Mais à qui doit-on raconter ? Est-ce que la mitzvah est de raconter à ses invités la sortie d'Égypte ? La réponse est non. Je vais vous dire mieux que ça. A priori, il n'y a pas d'invité le soir de Pessah. Et là, je voudrais qu'on rentre vivement dans le vif du sujet. Cette année, on va retrouver un Pessah, par la force des choses, un Pessah peut-être authentique. Alors, il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui ont fait des Pessahs organisés avec plein de gens autour de nous. Et c'est toujours une grosse ambiance, c'est très sympathique. Et même lorsqu'on fait un Pessah avec des amis proches, et même, j'irai plus loin, lorsqu'on fait un Pessah avec une grande famille, et une grande famille, quand je dis grande famille, c'est-à-dire cousin, cousine, oncle, nièce, tante, machin, truc bidule, eh bien, quelque part, on s'est éloigné du Pessah originel. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, absolument pas. Je dis simplement qu'il faut qu'on comprenne quel est l'objectif de Pessah et ensuite voir comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique quand on va avoir un Pessah à 30, à 40, à 100 et ainsi de suite. À l'origine, eh bien, comme vous le savez, nous commençons la Haggadah par un mensonge. Ouais, enfin, commençons la Haggadah, je m'entends. Nous commençons le Maggid par un mensonge. Et oui, quand on commence le Maggid, eh bien, on dit cette phrase que tout le monde connaît. Halachmania de achalo avatana de ara de mitzrayim, kol dichvin yitev yuchal, kol ditzrich yitev yifsar. Voici le pain de misère que nos ancêtres mangeaient en Égypte. Tout celui qui a besoin, ou qui le veut, slicha, tout celui qui a le veut, qui le veut, qui vienne et qu'il mange. Tout celui qui en a besoin, qui vienne et qui mange cette fois le korban pesach, kol ditzrich yitev veyifsach, qui fasse le korban pesach. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge à l'Afrique. Alors oui, on n'a pas l'habitude, korban pesach, ça fait quelques années qu'on le fait plus. Mais il faut se rappeler de la halakha. D'après la halakha, je n'ai pas le droit, assis dans ma maison, de commencer à inviter tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Kol ditzrich yitev veyifsach. Deux secondes. Si l'objectif, c'est d'être sympa et d'inviter les gens qui n'ont pas offert le seder, faudrait dire cette phrase à la synagogue, à la fin de la tefila de Arvit de Pessah, dis, tout celui qui a besoin, qui lève la main, je l'invite. Mais premièrement, c'est pas ce que tu fais. Tu dis cette phrase une fois que tu as fermé la porte à double tour et que tu es rentré chez toi. Mais en plus de ça, c'est pas possible. D'après la halakha, alors je me balade ici avec une feuille, évidemment. D'après la halakha dans Ilchot Korban Pesach, donc dans le Rambam, Ilchot Korban Pesach, chapitre 9, halakha 1, nous dit le Rambam, « Kol ha'ochel min ha'pesach ein ha'ochel ella bechabura achat, ve'en motzi mimeno min ha'chabura she'yochal ba, ve'amotzi mimeno kazayit basar mi'chabura lechabura, ve'lel chamisha asar loke. » En d'autres termes, il y a, lorsqu'on faisait l'époque du Korban Pessah, lorsqu'on faisait le Korban, eh bien, il y a une halakha très particulière dans le Korban, c'est que au moment où je vais faire la Shrita, je dois avoir ma liste de gens qui vont manger ce soir le Korban. Et une fois que j'ai fait la Shrita du Korban, plus personne ne peut rentrer sur ma liste. C'est ce qu'on appelle une chaboura. Et je n'ai pas le droit de sortir 30 grammes de viande à l'extérieur de ma chaboura. C'est ma liste, point barre. Zéou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pourquoi est-ce que j'invite tout le monde à venir faire le Korban Pessah alors que je peux pas ? Facile. Dans la Haggadah, on invite les gens à le faire parce que on fait plus le Korban Pessah. Alors on fait, viens te rappeler avec nous. C'est-à-dire, mais venez, on essaie de rentrer à l'origine. Pourquoi la halakha me dit que j'aurais pas le droit d'inviter des gens ? Pourquoi est-ce que je dois avoir déjà ma liste préparée ? Bon, vous me direz, ça peut être une liste quand même pas mal parce que si tout le monde doit manger deux kazaïtes de viande dans cette soirée-là, du Korban Pessah, qu'un mouton, allez, je sais pas, moi, je suis pas un professionnel, mais disons qu'une fois que tu as enlevé la peau, que tu as enlevé tout ce qui se mange pas, machin, combien de viande il te reste à manger dans le mouton? Allez, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, mais enfin, je pense à 50 kilos, c'est pas mal. Un petit 50 kilos, ça le fait. Bon, bah, 50 kilos. Si tu dois manger 30 grammes, plus 30 grammes, allez, 60 grammes, tu peux inviter un bon 80 personnes quand même, hein, pour manger ton Corban Pessah. Donc, ta liste, elle peut être grande, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir une liste bien déterminée. Lama. Pourquoi est-ce que j'ai des gens bien précis qui vont s'asseoir avec moi à la table du Seder? Pourquoi est-ce si important? Bien, les amis, avant de répondre, ben, je vais rentrer dans un autre problème. Cet autre problème, il est mis également en place par le Rambam. Toujours le Rambam, cette fois dans Ilchot Hametz Umatza, au chapitre 7, Alacha, Alef, Bet et Vav surtout. Nous dit le Rambam. Mitzvat Aseh Shel Torah, Lesaper Benissim Veniflaot, Shena'asu La'avotenu Bemitzrayim, Belel Chamisha Asar. Ça, on a une mitzvah de raconter donc la sortie d'Égypte. Tout va bien. Shene'emar Zachor et Ayom Azeh Asher Yetzatem. Ah oui, il faut se rappeler, marqué dans le livre de Shemot, le jour où on est sorti. Que Moshe Shene'emar Zachor et Ayom Ashabat le Kodjo. Minayin Shebelel Chamisha Asar, Talmud Lomar, Veigadeta Lebincha Bayom Ahu Lemor. Bah, vous savez, alors ça, vous connaissez, c'est ce qui est marqué dans la Haggadah. Donc, nous avons une mitzvah, le 15 Nissan, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à nos enfants. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais le Rambam continue en me disant, qu'est-ce que ça veut dire, Veigad et Alebincha, le fida toshel ben aviv melamedo. C'est-à-dire que le père doit enseigner, raconter la sortie d'Égypte en fonction de ce que son fils comprend. Et c'est là que je disais tout à l'heure que les gens qui se sont installés dans une routine, qui vont avoir le même seder plus minus que celui de l'année dernière, ben c'est une grande erreur. Parce que tes enfants ne sont pas les mêmes d'année en année. Azov, toi aussi, tu dois avoir changé d'année en année. Mais tes enfants ne sont pas les mêmes d'année en année. Un enfant, ça grandit énormément en un an. Leur compréhension, leur imagination, tout a changé. Et donc, tu ne peux pas rester campé sur tes positions, parce qu'à ce moment-là, tu ne racontes pas la sortie d'Égypte telle que lui, ton fils, le comprend. Mais attendez, ça va plus loin. Puisque le Rambam nous dit la chose suivante. Le Rambam continue en disant « Bechol dor vador, chayav adam, lirot et atzmo, ou leharot et atzmo, keilu beatzmo yatsa atam mishabud mitzrayim. » Dans cette génération, on doit se voir comme si nous, nous étions en train de sortir d'Égypte. Chez Nehemar, Veotanu, Otsi, Misham. Jusque-là, tout va bien. Mais le Rambam continue en disant une phrase terrible. Enfin, terrible. Pas terrible, mais bizarre. Il dit, Ve'aldevarze. Et c'est à propos de cela que la Torah a ordonné, Ve'zacharta ki evedaita. Mastomet, Ve'aldevarze tziva a Torah. Dans le verset de Parashat de Sefer de Dvarim, de quoi? Eh bien, les versets qui sont choisis par le Rambam pour être les versets de nous, pour nous rappeler la sortie d'Égypte, eh bien, je vous ramène quelques lignes plus haut dans ce même Rambam, Ilchot Hametz Umatzah, chapitre 7, Halakha 6, nous dit le Rambam, c'est quoi le verset sur lequel on s'appuie pour savoir qu'il faut raconter et se voir dans chaque génération? Eh bien, nous dit le Rambam, le verset, c'est tout simplement le verset du livre de Devarim qui nous parle de Shiluach à Avadim. Nous avons une mitzvah dans la Torah de se rappeler Votanu Otsi Misham, le Rambam avait dit tout à l'heure. Il nous a sorti de là-bas. Mais ce verset Votanu Otsi Misham, d'où vient-il? Eh bien, il vient de toute une histoire qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte, qui est tout simplement l'ordre que lorsque tu as acheté un esclave juif, eh bien, lorsque tu vas le laisser partir au bout de 7 ans, eh bien, tu n'as pas le droit de le laisser partir comme ça, il faut lui faire un petit cadeau. Il faut lui donner un ma'anak, c'est mitzvat ha'anaka, ça s'appelle. Et dans cette mitzvah, on te dit, pourquoi est-ce que tu dois lui donner quelque chose? Parce que rappelle-toi que toi aussi, tu as été esclave en Égypte. Maintenant, oui, c'est un lien avec la sortie d'Égypte, rappelle-toi que tu as été... Mais franchement, des versets, pour nous parler de la sortie d'Égypte, il y en a des tonnes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'Afka un verset qui parle de quand on est en Israël? Qu'on a un esclave, ça paraît quand même assez loin. Il va falloir qu'on essaie de comprendre cela. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger, inviter autant de gens qu'on veut à notre Corban Pessah? Pourquoi est-ce que le Rambam, le seul verset qu'il a trouvé pour nous expliquer qu'il fallait se souvenir de la sortie d'Égypte, c'était un verset qui parle de la libération des esclaves, mais rien à voir en soi avec la sortie d'Égypte? Et qu'est-ce que c'est cette histoire que je dois raconter à mon fils et que ben, ça va donc changer d'année en année. Les amis, comme vous le savez, j'ai entendu, j'étais un michté de Pourim, on n'était pas encore en mode confinement à Pourim en Israël, et j'étais un michté à Pourim où le père qui avait déjà commencé à Baruch Hashem Adelo Yada, il n'était pas encore Adelo Yada, il était Adelo. Et il y a son fils qui est venu lui poser plein de questions comme ça sur son dos, et il a dit une phrase très, très sympathique, je m'en rappelle, il a dit, parce que moi non plus j'étais pas encore Adelo Yada, j'étais Adde, donc je m'en rappelle encore, il a dit, regarde, tu sais ce qui est bien à Pourim, c'est qu'à Pessah, tout tourne autour des enfants. À Pourim, non, laisse-moi tranquille. Nounou, je ne sais pas si c'est vrai au niveau halakhique, mais à Pessah, tout tourne autour des enfants. Vous le savez, à Pessah, tout tourne autour de Bincha Vebitra. Alors justement, puisqu'on nous parle d'enfants, eh bien, je vous rappelle une chose. Je vous rappelle que le verset me dit la chose suivante. Le verset dans le livre de Shemot me dit, alors dans le livre de Shemot, au chapitre 13, Veigadeta le bincha bayom ahu lemor ba'avur zeh asa Hashem li betzeti mimitzrayim ve'haya lecha le'ot al yadecha ulezikaron menenecha leman tihye torat Hashem beficha ki biyad chazaka hotziacha Hashem mimitzrayim ve'shamarta et hachuka hazot lecha le'moada miyamim yemima. Seulement le verset ne s'arrête pas là. On te dit voilà, Dieu t'a sorti d'Égypte et c'est pour ça que tu raconteras à ton fils ce qui s'est passé. Mais là on te dit ve'haya ki yevi'acha Hashem el ha'eretz ha'kana'ani, lorsque Dieu t'amènera en Eretz Israël. Kachem Nishbalach, Kachem Nishbalach, c'est vrai que lorsque, comme il te l'a promis, ou là, votera, il y a tes ancêtres, ou n'tana lecha, va avarta kol peter rechem Hashem, ve kol peter sheger behema, asher yelecha, azecharim Hashem. On te parle de faire le pidion azecharim des animaux. Et à la fin, tout ça, on te dit quoi? On te dit, vechi shalecha mincha machar lemor. Lorsque ton fils te demandera demain. Mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on rachète le premier-né, le premier des animaux, machin? Eh bien, tu lui répondras, va marta elav, bechosek yad otsiano Hashem mitzrayim mibet avadim, et tu lui raconteras en fait toute la Haggadah. Les amis, cette question-là, ce verset-là, on le retrouve évidemment dans notre Haggadah. On le retrouve évidemment chez nos enfants de la Haggadah. Nos enfants de la Haggadah, eh bien, vous le savez, nous en avons quatre. Ces quatre enfants de la Haggadah sont les quatre mêmes qui vont poser les questions de Manishtana. Et j'aimerais qu'on comprenne bien cela parce que c'est fondamental pour la suite. Les quatre enfants, on les connaît, Chacham, Racha, Tam, Vesheino, Yodea, Lishol. Il y a quatre questions dans la Haggadah. Et si on a dit la semaine dernière qu'il y avait ces deux Haggadotes, Avar, Veové, eh bien, on ne peut pas ne pas les mettre en relation. Donc, s'il y a quatre questions dans le Manishtana, eh bien, il y a quatre questions aussi des quatre enfants, bien sûr. Et d'ailleurs, on pourrait s'amuser à faire une corrélation, mi avec mi. Quel est l'enfant qui pose quelle question? Alors, ça aurait été trop facile de les mettre dans l'ordre, donc on va pas les mettre dans l'ordre. Qui pose la question? Alors, le Manishtana, vous le connaissez. La première question, c'est pourquoi est-ce que d'habitude on mange chametz ou matzah, et là on mange que de la matzah. Deuxième question, pourquoi est-ce que d'habitude on mange tous les légumes, et là on mange que du maror. Troisième question, pourquoi est-ce que d'habitude on trempe une seule fois, enfin on trempe pas, c'est vrai, et là on trempe deux fois. Et pourquoi est-ce que d'habitude on mange ou assis ou couché, oui couché à, vous savez, à la romaine, genre comme ça quoi, tu vois. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire le seder. Moi je pense que là en mode confinement, je suis désolé de vous le dire, je viens de recevoir le nouveau canapé, enfin il y a deux mois, donc je pense qu'on va se servir de ce canapé pour faire la seder. Ouais, ça c'est mes soubines. Ça, tu vois, ça, c'est de la messoubine de compète. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, tout ça pour vous dire que la dernière question, c'est d'habitude, on peut manger soit assis, soit couché, et là, complètement couché. Par rapport à ça, nous avons nos quatre enfants, évidemment. Alors, qui a dit quoi? Eh bien, c'est très simple. Le chacham. Le chacham, lui, il est pote avec les chachamim. Donc, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Ben, c'est facile. Le chacham, lui, il s'entend très bien avec Maase Bechamisha Chachamim. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria. Shehayu Mesubin Bivnei Brak. Un Chacham, il pose la question de Mesubin. Comme les Chachamim qui étaient Mesubin. Rasha, Ouah. Rasha, Mama Ushoel. Qu'est-ce qui le dérange? Nous à Maroc, nous. D'accord ? Ben, mais tu poses la question du Maroc. Ah ben, Lama ? Ah ben, shoot ! Parce que lui, il n'aurait pas voulu sortir d'Égypte s'il avait été là-bas. Alors, ça d'ailleurs, maintenant que tu es là, alors y'a là. Atam, il pose la question de la matzah, évidemment. Pourquoi ? Parce que le tam, ça ne veut pas dire débile. Tam, ça veut dire entier, chalem, ou rotzet, kol asipur. Il veut toute l'histoire. Et donc, le tam, eh bien, il marche très bien avec la matzah, puisqu'on appelle la matzah lechem oni. Et pourquoi oni ? Pas seulement de misère, dit la Gemara, parce que onim alav dvarim arbe. Parce qu'on raconte plein de choses sur elle. Donc, le tam, il veut tout le temps qu'on en raconte plus. Nous, il a fait mal. Et le sheino yodé alishol. Le sheino yodé alishol, rabotai. Le sheino yodé alishol, dans les agadotes dessinées, il est toujours représenté comme un débile profond. Le tam, il est déjà pas très intelligent, mais alors le sheino yodé alishol, mais qui te dit ? Peut-être que le sheino yodé alishol, c'est un professeur en égyptologie ancienne. Il ne s'est pas posé de questions parce qu'il a déjà toutes les réponses, du moins il croit. Le sheino yodé alishol, ve'at petachlo. Il est évidemment mis en relation avec le carpas qu'on trempe dans l'eau salée. Pourquoi faire ? Pour ouvrir l'appétit. On a besoin de lui ouvrir l'appétit, on a besoin de lui ouvrir la bouche, on a besoin de lui ouvrir la volonté de poser la question. Et vous ferez bien attention que le racha, le chacham, le tam, qui lui parle ? Eh bien, c'est le Baal HaAgada qui parle. C'est celui qui est en train de faire dire la Agada. Ve'amarta, ve'anita, ken, ve'amarta lo. Alors que le Sheino de Alishol, on lui dit ve'at au féminin, petachlo. C'est sa mère, c'est sa sœur, c'est sa femme, c'est sa fille. Celles qui sont proches de lui et qui lui disent « Allô, tu vas te calmer, oui. » Mais ça ne suffit pas de les mettre en relation. Nos quatre enfants de la Haggadah, qui sont nos quatre enfants du Manishtana, eh bien, posent donc deux séries de questions. La série de questions de Manishtana et la série de questions des Arba Banim. Quelle différence y a-t-il entre ces questions ? Rota, et si vous faites bien attention, les quatre questions du Manishtana sont des questions sur des pratiques. Pourquoi on fait ça ce soir ? Alors que les questions des quatre enfants ne sont pas des questions sur qu'est-ce qu'on fait, mais sont des questions sur qui on est. Parce que nos Chachamim ont bien lu la lettre 555 du Rav Kook, lorsque le Rav Kook nous explique que dans la Kedusha du peuple juif, eh bien, il y a deux dimensions. La dimension de la Ségoula, qui est la Kedusha intrinsèque de l'identité d'Israël, et la Kedusha de la Bechira, qui est tout simplement la Kedusha liée à la pratique des mitzvot. En d'autres termes, eh bien, tout simplement, il y a deux façons de vivre son seder. La façon de Manishtana et la façon des enfants. Qu'est-ce que je fais ? Et ensuite, qui je suis ? Les questions du Manishtana, c'est pourquoi on fait ça ? Pourquoi on mange comme ça ? Pourquoi on se met comme ça ? Alors que les questions des quatre enfants, c'est mazé. La mani. Pourquoi est-ce que moi j'ai été sauvé ? Ma'edot va'chukim va'mishpatim shartiva l'akshem lokenu etchem. Ça veut dire quoi pour moi ? Le tamidi mazot. C'est quoi toute cette histoire ? On ne pose pas les questions sur ce qu'on fait, on pose des questions sur qui on est. Et pourquoi est-ce qu'on a précédé le Manishtana aux questions des quatre enfants ? Parce que le Rav Kook a dit que dans ce monde, précède la Bechira, les actions, avant de pouvoir dévoiler la Kedusha intrinsèque. En d'autres termes, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que notre histoire ici de la Haggadah est en train de se tourner vers les enfants en leur disant « Les gars, ce soir, vous devez prendre une résolution. » C'est quoi « The résolution » de ce soir ? Eh bien, « The résolution » de ce soir, c'est de dire « Maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant, c'est moi qui prends la relève. » Mais qu'est-ce que ça veut dire « C'est moi qui prends la relève » ? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a posé la question de notre histoire, de pourquoi est-ce que le Rambam, de tous les psukim qu'il a choisi, qu'il aurait pu choisir pour nous rappeler la sortie d'Égypte, il dit qu'il faut se rappeler d'Afka, de la libération des esclaves. La Mama Kesher. Mais je vais vous dire la Mama Kesher. Comment est-ce qu'on appelle dans le langage de la Torah la libération des esclaves ? Dans le langage de la Torah, on appelle ça Dror. Vekarata Dror Baaretz Lechol Yoshvea. C'est ce qu'on dit pour le Yom Kippour du Yovel, lorsqu'on libère tous les esclaves. La notion de dror, de liberté, comme cet oiseau qui vole totalement libre, et la notion de dror, c'est la notion de liberté. Et c'est là que le Ramban intervient et donne une explication extraordinaire, nous dit le Ramban, dans le livre de Vayikra, à propos du mot dror, il dit « Ve'al derecha emet » Mazé dror, je vous lis. Ve'al derecha emet dror milachon dor olech ve dor ba. Mazé dror, c'est ça y est, c'est bon, on est bon. On dit le Ramban, dror, c'est dor olech ve dor ba. Une génération s'en va, une autre prend la relève. Dror milachon dor vedor, dor vador. Pourquoi est-ce que le Rambam a choisi ce verset? Pas tellement pour la libération des esclaves, mais pour le mot dror. Pour la prise de conscience que toute l'histoire du Seder, c'est de dire à toi de jouer. À toi de jouer. Ni plus, ni moins. Qu'est-ce que je vous dis? Ben, l'enfant, Veiga de Tal Bincha, tu vas lui raconter chaque année différemment. Pourquoi tu vas le raconter chaque année différemment? Parce que lui, il a évolué. Et si tu lui racontes comme tu lui avais raconté avant, il va te dire, non, papa, non, c'est pas intéressant, cette histoire. D'ailleurs, une question, pourquoi est-ce qu'il faut raconter si pour? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mitzvah, ce soir-là, de l'île mode et Yetziat Mitzrayim? Là-bas, d'après elle, ça perd. Mais pour une raison très simple. Si on va commencer à l'île mode, on va le perdre, notre fils. Ah, vous allez me dire, non, peut-être mon fils, c'est un mec de la yeshiva et il kiffe. Ah, oui, mais pour peu que le rosh yeshiva de ton fils, il soit pas exactement dans le même mouvance que ton rav à toi ou que toi, alors bichlal, tu vas te disputer avec lui toute la soirée. Le truc qui est me'ached et kulam, c'est à Sipour. Bah, Sipour, on est tous dans le même bateau. Bah, l'imoud, on a chacun une façon de comprendre. Mais la raconter, l'histoire, c'est la même histoire pour tout le monde. Abotai, la dimension de Sipour permet de rentrer tout le monde dans le film. La façon dont je vais raconter cette histoire à mon fils ne peut pas être la même que celle que tu vas raconter à ton fils. Même si la Sipour est la même, je l'ai dit, pour rentrer tout le monde dans l'histoire, la façon dont nous, on a vécu la Sipour, elle est différente. Elle est fondamentalement différente. Je pense que si là, Pessah, après Pessah, l'homme chané, je pense que les éducateurs, au travers des écoles, devraient demander aux enfants, quand ils reviendront à l'école, d'écrire une rédaction. Comment avez-vous vécu le confinement à la maison? Racontez-nous une journée type à la maison. Et ça sera fantastique de voir les réponses. Parce que je peux vous assurer que la journée de mes enfants ne ressemble pas d'abord à celle que j'aurais voulu qu'elle soit. Ah mais non, mais moi tous les jours on a un programme. Jamais il est respecté ce programme. Mais on a un programme. Et la façon dont concrètement mes enfants ont vécu leur journée n'est certainement pas la même que celle dont vos enfants ont vécu la journée. C'est-à-dire qu'on a tous la même Sipour. S'il s'agit de raconter la Sipour du coronavirus l'année prochaine, eh ben on racontera tous la même histoire. On aura la même version de l'histoire. Et on dira tous que ça a été une crise incroyable et machin, qu'on est sorti et que tout le monde a une réserve de papier toilette beaucoup trop grande chez lui à la maison. Mais quand il s'agit de raconter comment moi j'ai vécu l'histoire, comment mes enfants ont vécu l'histoire, oh oh, mes enfants d'ailleurs ils n'ont pas vécu l'histoire comme moi j'ai vécu l'histoire. La reine Veigadeta Lebincha, c'est ton fils Dafka. Parce que veut dire le mot Lehagid? Veigadeta Lebincha, c'est pas Vesaparta, Vesiparta Lebincha. Ça veut pas dire non plus Vamarta Lebincha. Ça veut pas dire non plus Vedibarta Lebincha. Vesiparta, si tu raconteras. Vamarta, si tu lui diras. Vedibarta, tu lui parleras. Mais c'est Veigadeta. Veigadeta, ça vient du mot lehagid. Guid, ce sont des tendons. Lehagid, ça veut dire limshoch. Lehagid, ça veut dire le tirer vers moi. Vigadeta levincha, c'est tu le tires vers toi. Et tu sais comment tu vas le tirer vers toi? Oui, toi, tu le sais. T'es le seul à le savoir, d'ailleurs. Tu es le seul à savoir comment tu peux parler à tes enfants. Parce que c'est tes enfants. Et tes enfants sont les seuls à savoir qui y a vraiment derrière le mec avec la barbe. Et bien sûr, tu peux vendre à qui tu veux que tu es un tzadik gadol, tzadik ador, le rabbin et tout ça. Mais tes enfants, eux, ils savent que des fois tu leur cries dessus pour rien. Ils savent que des fois tu parles pas comme il faut à ta femme. Ils savent que t'es pas the tzadik ador. Tu peux pas leur mentir à eux. De la même façon, ton fils qui est gibor, gibor, gever, gever, il peut pas te mentir à toi. Parce que toi, des fois, tu sais. Et lui, il sait que tu sais. Que t'es venu la dernière fois dans ton lit parce que il avait fait un cauchemar et il s'était mis à pleurer. Il sait très bien qu'à toi, il ne peut pas te mentir. La relation que tu entretiens avec tes enfants, personne d'autre ne peut l'avoir. Et donc, je sais comment l'imchor oto elai plus que n'importe qui. Dor oler vedor ba. Toute l'histoire de Pessah, c'est de faire prendre conscience à ton fils qu'il est le successeur de son père, le successeur de son grand-père, le successeur de toute cette chaîne qu'il a amenée ici. Je voudrais vous citer ici, justement, en l'occurrence, si déjà on est là, je voudrais vous citer un texte qui a été écrit il n'y a pas longtemps, il y a un mois, même pas, qui aurait dû vous parvenir, comme à tout le peuple juif, d'ici peu. J'explique. En fait, l'histoire, elle est très simple. Ma fille devait faire bat mitzvah dans 2 semaines à Shabbat Agadol. Enfin, dans 10 jours, en fait. Shabbat Agadol. Et bon, bah, finalement, Corona oblige, et bien, on a repoussé à après Shavuot. Mais, à l'époque, on s'était posé la question avec ma fille, à l'époque, je te parle avant, Shoshana, de qu'est-ce qu'on va faire pour ta bat mitzvah? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que ce soit pas simplement une fête, mais qu'au contraire, tu prennes conscience pleinement de qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans le peuple juif en tant que bat Israël? Et elle a émis une idée complètement folle, en me disant, mais toi, tu fais des cours tout le temps, tu expliques tout, machin, tu expliques la paracha, tu expliques la Haggadah. Moi aussi, je peux expliquer. Je dis, comment ça? Je dis, moi aussi, je veux écrire un commentaire de la Haggadah. Iné. Et on pourra. Je dis, ouais, mais c'est pas mal ça. Et comme ça, c'est ça qu'on donnera aux invités. Au lieu de leur donner un birkat Amazon, on leur donnera la Haggadah. Il y a le birkat dedans. Et il y aura ton commentaire dedans. Et donc, elle a écrit, ma fille, un commentaire de la Haggadah. Ouais, je rigole pas. Et on a fini, hein. Elle a écrit un commentaire de toute la Haggadah. Qu'on a appelé d'ailleurs Pnine Emouna. Parce que ma fille s'appelle Emouna Pnina. Donc, on a appelé ça Pnine Emouna. Alors, une fois qu'on a terminé et que j'ai tout écrit, machin, sur ordinateur et tout, j'ai demandé à mon père de m'écrire une agdama, de m'écrire une introduction. Vous savez, comme les grands rabbins, ils écrivent une introduction à un livre d'un autre plus petit rabbin. J'ai demandé à mon père, le grand-père, d'écrire une agdama à la petite fille. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui que sa petite fille écrive un commentaire de la Haggadah? Je voudrais simplement vous lire quelques petites lignes de ce que mon père écrit. Je cite, « Qui est juif ?» De nombreuses réponses ont été données à cette interrogation. Mais je leur préfère la réponse d'André Neher, grand philosophe juif français de la seconde moitié du XXe siècle. « Est juif quelqu'un dont les petits-enfants sont juifs ?» C'est exactement ce que je ressens quand je vois ma petite fille devenir une jeune fille juive, adulte, et qui entre complètement dans le peuple d'Israël. Fin de citation. « Est juif ?» Celui qui a réussi à faire en sorte que Dror Bechol Yoshvea, de faire en sorte que par son éducation, parce qu'il nous a transmis, eh bien, ses enfants et surtout petits-enfants sont ceux qui maintenant prennent la relève. Je vais vous dire un truc. Quand un grand-père est assis à la table du Seder et que c'est lui qui gère le Seder, il est extrêmement fier de voir autour de sa table ses enfants, ses petits-enfants. Mais ce qui va le rendre encore plus fier, c'est de voir son fils ou de voir son petit-fils diriger le Seder tel que lui le dirigeait avant. C'est une passation de pouvoir. C'est exactement de cela qu'il s'agit le soir du Seder. Et c'est la raison pour laquelle, on disait tout à l'heure, c'était notre première question, pourquoi est-ce que, d'après la halakha, on ne peut pas inviter tout le monde le soir du Seder? Pourquoi est-ce qu'on doit manger le Korban Pesach Bechaburot en équipe? Parce que justement, cette soirée du Seder, c'est le moment où tu dois renforcer l'équipe. Pourquoi? Bien pour faire en sorte que toi, qui es devenu maintenant un entraîneur, tu n'es plus le joueur actif, tu es l'entraîneur, eh bien tu vois qu'il y a des gens qui continuent, qui prennent le flambeau, qui prennent le relais. C'est exactement cela, l'enjeu de l'Aïla Seder. L'enjeu de l'Aïla Seder, c'est de comprendre que maintenant, tout se passe entre les mains de mes enfants. Comment est-ce que j'ai pu réussir à cela? Eh bien, j'ai réussi cela si mes enfants, eh bien, ont compris les deux dimensions des questions. Les deux dimensions des questions, ce que je fais et qui tu es. On a dit tout à l'heure qu'il y avait quatre enfants, donc quatre questions et quatre manishtana. Et vous le savez, les questions de manishtana sont des questions de la Mishnah à la base, avant d'être les questions du petit dernier de la famille. Et les quatre enfants sont les questions de la Mechilta. Et quand on regarde dans la Mishnah, dans la Mechilta, eh bien, quelle surprise! Il n'y a pas quatre, mais il y a cinq questions. Il y a cinq questions. Quelle est la cinquième question du manishtana? C'est comment ça se fait que tous les soirs, on peut manger soit grillé, soit cuit, et cette soirée-là, on mange que grillé? De qui parle-t-on? Du Korban Pesach, évidemment. Il est à mettre directement en relation avec le cinquième enfant de la Mechilta. C'est qui ce cinquième enfant? C'est celui qui n'est pas là. Pas parce qu'il a le corona et qu'il est en confinement. Non, pas du tout. Il n'est pas là. Parce qu'à force de ne plus faire, il ne savait plus qui être. Et au fur et à mesure des générations, eh bien, il n'est pas devenu Dor Oler Vedor Ba, puisqu'il a été se marier avec une Goya. Ce cinquième enfant qui est Pazour, il est comparé au peuple juif qui en exil se disperse et qui devient ce qu'on appelle Se Pezoura Israël, dit le livre de Yirmiyahu. Se Pezoura Israël. Le peuple juif est divisé tel un agneau qui s'est perdu de son troupeau. Pour ramener ce personnage qui s'est éloigné, qu'est-ce qu'il faut? Le Korban Pessah. Comment ça va le ramener? Ben oui, le Korban Pessah, on le mange grillé. Quelle différence on a entre un bon barbecue et un ragoût? L'odeur du barbecue, oulalalalala, ça part loin. Ça va aller le chercher. Ça va le ramener. Combien il y en a de nos frères, de nos amis, qui sont un peu éloignés beaucoup, mais pour rien au monde ne raterait les boulettes de maman, ou surtout les boulettes de mamie. C'est exactement de ça qu'on parle. Le soir du Seder, si la semaine dernière on a dit que c'était Avar Oveveye, qu'il y a une dimension de la Haggadah au passé, une dimension de la Haggadah au présent, une dimension de la Haggadah au futur, le passé, c'était les grands-parents, le présent, c'est les parents, le futur, ce sont nos enfants. Le futur, ce sont nos enfants. Et c'est pour ça que je voudrais vous donner un enseignement. Un enseignement pour terminer ce soir fantastique, justement, de ces enfants. De ces enfants qui poursuivent le flambeau. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai cité, je vous ai expliqué que ma fille donc avait écrit un commentaire de la Haggadah. Eh bien, je voudrais vous donner un exemple de ce qu'elle a écrit. Ce n'est pas mon commentaire. Je n'aurais jamais dit ça. J'y aurais pas pensé. Je sais pas pourquoi, mais j'y aurais pas pensé en tout cas. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, nous avons un chant très connu, le fameux Daï Daïenu. On chante avec toutes les manguinotes du monde, chacun sa manguina, et pas de problème. Mais le Daï Daïenu, on passe en revue tout ce que Dieu nous a fait, et à chaque fois on dit Daïenu. Ce qu'on a l'habitude d'enseigner, ce que moi j'avais l'habitude d'enseigner, ce que disent nos sages, que c'est Dayenu que Deleodot. C'est-à-dire, ce schlave-là, même s'il n'y a pas celui d'après, ça suffit pour dire merci à Dieu. genre montrer sa reconnaissance, ne pas faire preuve de Kfirat Tova. Et là, ma fille arrive, du haut de ses 12 ans, du haut de ses 12 ans en Eretz Israël, elle vient, elle dit, Slicha, aval lo. Lo nachon. Mazé. Ilu, otsianu mi mitzraim, velo asabem shvatim. Dayenu, si nous avions sorti d'Égypte, mais qu'il n'avait pas éclaté les Égyptiens, dayenu. On dit, mais non. Et c'est dayenu. Si on n'avait pas éclaté les Égyptiens, ils seraient revenus, ils nous auraient ramenés en esclavage massacré. Donc, quel intérêt? Ilu, otsianu mi mitzraim, velo asabem shvatim, velo atananu et atora dayenu. Si nous avions amené au Mont Sinaï, nous avions pas donné la Torah, mais daïnou pour dire merci. Non. Mais non, daïnou, on aurait été devant une grosse montagne, quel intérêt? Aucun intérêt. Et là, nous dit, Ba'ala tapnine emuna. Elle dit la chose suivante. Elle dit, bon, ça c'est un peu de ma faute, c'est moi qui lui avais enseigné ça à un moment donné, que le Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, il dit que l'essence de chaque fête, c'est 30 jours avant. 30 jours avant la fête, c'est là que tu trouves l'essence véritable de chaque fête. En d'autres termes, l'essence de Pessah, c'est Pourim. Ah oui, à Jérusalem, 30 jours avant la fête, c'est Pourim. Donc, l'essence de Pessah, c'est Pourim. Et donc, elle me dit, en fait, à Pourim, on dit Vena Aforou. L'essence de Pourim, c'est que Vena Aforou. Donc, là aussi, il faut Vena Aforou. Elle me dit, Dayenu, le Day, Day que de Léodot, Imata Oferze, ça devient Yad. Et en fait, elle nous explique que, qu'est-ce que ça veut dire Dayenu? Il faut comprendre Yad. Yad de dire que à chaque étape de la délivrance, eh bien, on peut, si on est capable de se frotter bien les yeux, eh bien, on peut y voir Yad Hashem. Ça, c'est l'explication d'un esprit qui a grandi en Eretz Israël, qui au quotidien voit le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sans intermédiaire. Pour nous qui avons grandi en exil, c'était compliqué. C'était très dur. Alors des fois on voyait, des fois on voyait pas. Mais pour les âmes qui ont grandi en Eretz Israël, qui sont l'avenir du peuple juif, eh bien eux ils comprennent quelle est cette identité, quel est ce rôle de ce peuple juif qui a ressuscité, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu partout. Elle est là, la dimension de la Haggadah, du Hatid. C'est pour ça que dans la fin du Maggid, eh bien, on termine par quoi? Quelle est la fin du Maggid? La fin du Maggid, la fin de la mitzvah de Sipour, c'est le Hallel. Enfin, le Hallel, pas en entier. Puisqu'on commence le Hallel, on dit les deux premiers paragraphes du Hallel, et on ne termine pas. On coupe au milieu, et qu'est-ce qu'on fait? Le repas. Et ensuite, on reprend le Hallel. Mazé. Eh bien, Sarah Botaï, c'est le moment le plus important de la soirée, le repas. On coupe le Hallel en deux et on traverse avec le repas au milieu. De la même façon que quand on a coupé la mer, on a traversé au milieu. Et on a dit, Zé, Livan, Veu. On a dit, ça, c'est mon Dieu. Eh bien, le repas de Pessah, qui est le moment où il y a tous les minagim, qui est le moment où tu vas avoir tout ce qu'il y avait dans les générations précédentes, qu'il y aura dans les générations suivantes. Et je me répète, je ne fais que me répéter, en disant que il y a plein de halakhot à Pessah, qu'il y a plein de familles qui, bah, même les familles religieuses, hein, on n'est pas forcément super à cheval sur certaines halakhot. Alors que les minagim de Pessah, lequel plat on va manger à Pessah, il y a reg ve aliyah avor. Les minagim du repas, c'est yé areg ve aliyah avor. Personne ne dérogera à cela. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que tu es en train de prendre conscience à quel point tu formes la nouvelle génération. C'est un repas très particulier, le repas de Pessah, puisque c'est le repas, le seul, qui est à l'intérieur du Hallel. En d'autres termes, c'est un repas où toute l'identité de ce repas, c'est d'être Yad Beyad avec Akadosh Baruch Hu. Pessah, c'est le moment où quand tu vois ton fils te raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et c'est ce que moi, j'avais envie de faire cette année. Je me suis dit, puisqu'on est en confinement, je vais leur demander à eux de me raconter leur version de la sortie d'Égypte. Je vais leur demander de me raconter l'histoire d'un jeune de 12 ans, pour ma fille, d'un jeune de 9 ans, pour mon fils, d'une jeune de 6 ans, pour ma fille, On verra ce que je fais avec ma 3 ans. Qui me racontent, eux, comment à leur âge, s'ils avaient été dans le cas, ils auraient vécu la sortie d'Égypte. Pour que moi, je puisse leur raconter à chacun leur version, leur compréhension de Sipour Yetziat Mitzrayim. Voilà pourquoi le Korban Pessah se mange en famille, en équipe. Voilà pourquoi le verset le plus important pour représenter la sortie d'Égypte, c'est la notion de dror. Et voilà pourquoi Vehigadeta lebincha bayom ahou lemor, tu rattacheras ton fils à toi, car il y a seulement toi qui peux le faire. Si on arrive à faire tout cela, alors on est assuré que la Haggadah du Atid, qu'on appelle Haggadah Yeshurun, qui est le sujet qu'on traitera la semaine prochaine, eh bien, elle est totalement assurée de se réaliser. Mais ça, on verra la semaine prochaine. À bientôt, les amis.